Bien, nous ouvrons la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains. Nous allons relire les 11 premiers versets du chapitre 5. Romains chapitre 5, les versets 1 à 11. Et l'apôtre Paul écrit ceci. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Et jusque-là, la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience, mais parfois on peut voir une maison ou une voiture qui est plutôt banale, petite de l'extérieur, mais quand on entre, on est surpris par l'espace, on est surpris par la grandeur de ce bâtiment, de cette maison, de cette voiture. Et c'est un peu la même chose avec l'Église, avec l'Évangile, avec la vie chrétienne. Vu de l'extérieur, la vie chrétienne n'attirait pas. Et peut-être quelques-uns peuvent témoigner de cela. L'Évangile n'attirait pas. Jésus-Christ ne représentait rien pour nous. Mais comme Paul le dit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, « En venant à la foi en Jésus-Christ, nous sommes devenus cette nouvelle création, nous sommes entrés dans un nouvel ordre mondial. On a réalisé et on ne cesse de réaliser que l'une des choses remarquables dans le royaume dans lequel Dieu nous a fait entrer, dans cette nouvelle création dans laquelle Dieu nous a fait entrer, c'est que c'est infiniment plus grand que l'impression que l'on en avait avant de faire partie. Et plus on avance dans la vie chrétienne, plus on a ces expériences qui soulignent la gloire, la beauté, la grandeur de la grâce de Dieu et de l'évangile de Jésus-Christ. Paul nous a expliqué, et nous l'avons vu, que nous sommes justifiés par grâce, par la foi en Jésus-Christ. Et nous sommes unis à Christ, et Dieu déverse par Christ toutes les bénédictions. Et on découvre qu'être en Christ, c'est infiniment plus grand que ce qu'on pouvait penser même au jour de notre conversion. Et Paul a expliqué cela dans les premiers versets de ce chapitre 5 que nous sommes en train d'étudier. Il nous amène de la justification, du pardon, de l'acquittement jusqu'à l'espérance de la gloire à venir, l'assurance de la gloire, comme nous l'avons souligné. Ces richesses que Dieu nous donne nous font grandir dans la confiance que si Dieu nous a déclarés justes, si Dieu nous a justifiés par la foi, il va aussi certainement nous glorifier. Et c'est ce que Paul va souligner au chapitre 8. Ceux que Dieu a justifiés, il les a aussi glorifiés. Au chapitre 8, verset 30. Mais la chose remarquable dans ces premiers versets, de Romains chapitre 5, c'est la façon dont Paul mélange deux éléments, deux fils si vous voulez, de couleurs différentes. Et les deux nous amènent à cette espérance glorieuse, comme nous l'avons déjà souligné. Le premier fil, c'est l'avènement de la vérité de l'Évangile dans mon esprit, de comprendre, de saisir cet Évangile. Si je suis justifié, c'est que cette justification, c'est la déclaration de Dieu au dernier jour qui a été avancée à aujourd'hui. Et ce Dieu ne reviendra pas sur sa déclaration. Et c'est là que repose ma confiance. Dieu ne reviendra pas sur sa déclaration. Si aujourd'hui il me déclare juste, au jour du jugement, il ne va pas revenir sur cette déclaration. Il m'a déclaré juste en Christ par la foi. Mais le deuxième fil que nous avons vu, c'est la transformation par l'Évangile de mon cœur et de mon expérience. On a vu Paul parler notamment du fait de se glorifier de nos afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire produit cette même espérance de la gloire à venir. Et quand on voit comment Dieu œuvre pour nous transformer toujours plus à l'image de Christ, cette espérance de la gloire devient de plus en plus présente dans notre vie. Et ces deux fils de couleurs différentes, ces deux fils de l'Évangile sont tissés ensemble dans ces versets. Et pour être sûr que nous n'allions pas penser que cette espérance de la gloire à venir va nous décevoir ou va nous laisser tomber, Paul nous dit que déjà l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est pour ça que nous, en tant que croyants, nous pouvons avoir cette confiance tranquille que le monde ne connaît pas. Un jour, nous serons dans la gloire avec le Seigneur Jésus. Comment est-ce qu'on peut être sûr de cela? Comment est-ce qu'on peut être sûr de cette réalité? Parce que Dieu nous a déjà donné un avant-goût de cette gloire. Dans la vie de l'Église, dans la communion fraternelle, mais dans son amour qu'il a répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Et on pourrait penser qu'après avoir dit toutes ces choses, Paul a terminé, Paul est arrivé au dernier étage, il n'y a rien à rajouter. Et en fait, Paul a à peine commencé. Et là, il nous dit maintenant, mais arrêtons-nous sur cet amour de Dieu. Et Paul fait quelque chose d'intéressant dans les versets 6 à 11. Il va d'abord nous amener vers le bas pour que nous saisissions la profondeur de cet amour de Dieu. Et ensuite, il nous emmène vers le haut. Et on va voir, Dieu voulant, dans les semaines à venir, c'est comme s'il disait, oui, ça c'est vrai, mais il y a encore plus. Il y a encore plus. Mais comme tous ceux qui veulent bien construire, il faut toujours commencer par le fondement. Il faut toujours creuser. Et c'est ce que Paul fait ici, donc au début du verset 6. Et nous allons voir ce matin ce verset. Et ce verset commence par cette conjonction de coordination, comme on le dit, ce petit mot « car », qui lie ce qui est dit précédemment avec ce qu'il va dire. Paul veut, il avance dans son raisonnement, et il veut que nous aussi nous réfléchissions à la logique de l'Évangile, la merveille de ce salut, de voir comment tout est lié, de voir les implications pratiques. Qu'est-ce qu'il dit ? Verset 5, il nous dit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car... » Et qu'est-ce qu'il va dire? Paul veut que nous soyons remplis d'un merveilleux sentiment de l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il veut que nous sachions que l'espérance de la gloire ne nous décevra pas parce que cet amour est tellement grand. Mais ce qu'il faut souligner ici, c'est que nous ne mesurons pas la grandeur de l'amour de Dieu pour nous par notre capacité d'en faire l'expérience. Et c'est pourtant une erreur que beaucoup de chrétiens font. Ils vivent sur la base de leur expérience et de la mesure de leur expérience. Mais Paul veut que nous soyons clairs que cet amour qui est répandu dans nos cœurs ne doit jamais être mesuré par l'expérience que nous pouvons avoir de cet amour. Au contraire, notre expérience de cet amour a besoin de développer une capacité à recevoir la vraie nature, la vraie grandeur de l'amour de Dieu. La grandeur de cet amour ne se trouve pas dans mon cœur, mais la grandeur de l'amour de Dieu se trouve dans ce que Dieu a fait pour moi en Jésus-Christ. Un chrétien ne grandira pas en ne regardant qu'à lui-même. Il y a une citation qui est attribuée à Richard Baxter, mais qui a été reprise par, entre autres, Murray McShane. Il dit, si on regarde une fois à soi, il nous faut regarder 10 fois à Christ. Si on regarde une fois à soi, il faut regarder 10 fois à Christ. Et c'est ce que nous devons apprendre. C'est la leçon que nous devons apprendre dans la vie chrétienne. Ce n'est pas regarder à soi, c'est contempler le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour nous. Et en faisant cela, en apprenant cette leçon, elle va nous servir à notamment à traverser des moments difficiles, des moments où instinctivement on va regarder à soi-même, on va regarder à notre expérience, on va mesurer l'amour de Dieu par l'expérience qu'on a de cet amour. Alors que si on apprend cette leçon, on va tourner nos regards vers le Seigneur Jésus-Christ et considérer les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Alors comment Paul va développer cela dans ce verset 6? Il va parler de 3 choses. Il va parler des objets de cet amour. Il va parler du moment choisi pour la venue de Jésus-Christ. Et il va parler de la mesure de l'amour de Dieu. Les objets de cet amour, verset 6. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort. » Bien sûr, quand Paul parle de nous ici, il parle des chrétiens, il parle de l'apôtre Paul, il parle de lui-même, il parle des chrétiens qui sont à Rome, il parle de ceux qui l'accompagnent, il parle de nous aujourd'hui qui croyons dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour nous que Christ est mort. Mais notez ce que Paul dit ici. Il ne dit pas « lorsque nous étions croyants, Christ est mort ». Il dit « mais c'est lorsque nous étions sans force que Christ est mort ». Et Paul va développer cette expression dans les versets qui suivent, il va utiliser des parallèles. Verset 6, donc il parle d'être sans force, à la fin du verset 6, il parle des impies. Qui sont les impies? Verset 8, « Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et puis au verset 10, « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. » Il parle d'être sans force, il parle d'impies, il parle de pécheurs, il parle d'ennemis. Paul va développer cela et nous allons le voir, Dieu voulant, dans les semaines à venir. Mais ici, il commence avec une expression très simple, mais très profonde. Ce n'est pas lorsque nous étions croyants que Christ est mort. Christ ne vient pas mourir pour nous parce que nous croyons en lui. Non, Christ est mort pour nous lorsque nous étions sans force. Il parle bien sûr sur un plan spirituel. On comprend ce qu'il veut dire dans notre propre expérience. Si on prend le parallèle avec sur le plan physique, on peut se sentir sans force quand on est très malade ou parfois même quand on voit d'autres personnes malades. On peut se sentir sans force quand on est passé par des situations où on ne peut rien maîtriser et on se sent faible, on se sent sans force. Parfois, on ne sait même pas pourquoi il faut prier tellement on est sans force. Et c'est l'idée qui est derrière cette expression qu'utilise Paul. Christ est mort, non pas lorsque nous étions forts ou lorsque nous étions croyants, mais lorsque nous étions sans force. Il y a plusieurs images auxquelles on pourrait se tourner, ou plusieurs illustrations dans les évangiles. On pense à cet homme paralytique, notamment. Les amis l'ont apporté, ont fait un trou dans le toit pour le faire descendre parce que la foule était nombreuse. Ils l'ont fait descendre jusqu'à ce qu'il se trouve aux pieds de Jésus. Pourquoi est-ce qu'il était paralysé? Est-ce que c'était par maladie? Est-ce que c'était un accident? On ne le sait pas. Mais il ne pouvait pas bouger. Il ne pouvait pas utiliser les membres de son corps, même s'il le voulait. Il était sans force. Est-ce qu'il était orphelin? Est-ce que ses parents l'avaient abandonné pour que ce soit ses amis qui le portent? On ne le sait pas. Mais voilà, les amis le portent, le déposent, le font descendre jusqu'aux pieds de Jésus. Jésus le regarde et lui dit, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et ensuite, il va lui dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » On peut aussi penser à Lazare, le Seigneur Jésus devant la tombe de Lazare. La seule chose que Jésus n'a pas faite devant la tombe de Lazare, c'est d'attendre que Lazare fasse quelque chose de lui-même. Parce qu'il était incapable, il ne pouvait pas le faire, il était sans force. Et la Bible nous décrit, c'est ce que nous sommes tous par nature. Nous sommes sans force, incapables, faibles. Dans le récit du paralytique, en Marc chapitre 2, le texte dit que Jésus a vu leur foi, la foi de ceux qui ont porté cet homme à Christ. Et cela fait penser à tous ceux qui ont prié pour nous, ceux qui ont témoigné, nous ont témoigné de la foi, ceux qui ont vécu devant nos yeux, ceux qui, dans le secret, ont intercédé avec Dieu. Seigneur, viens apporter la vie à ceux qui sont spirituellement morts. Viens apporter la force à ceux qui n'ont pas de force. Viens apporter le pardon à ceux qui sont dans cet état spirituel désespéré. Et ceux qui croient aujourd'hui dans le Seigneur Jésus-Christ peuvent se rappeler de ce jour où le Seigneur nous a regardés dans notre faiblesse. Il n'y avait aucune contribution que l'on pouvait apporter. Rien, aucune force en nous-mêmes. On ne pouvait pas se ressusciter soi-même de notre mort spirituelle. Non. Mais Jésus nous a regardés. Il nous a dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. On doit souligner cette réalité. Jésus a absolument le droit de pousser ceux qui sont sans force en enfer. Il a absolument le droit. Mais Ésaïe 42 nous dit aussi, en annonçant la venue du Seigneur Jésus-Christ, ce serviteur, l'élu, qu'il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Oui, il a le droit de le faire, il a le droit de nous détruire, nous qui sommes naturellement brisés par le péché, nous qui sommes cassés par la chute d'Adam, il a le droit de nous éteindre. Mais il s'approche de ceux qui sont sans force. Il s'approche de ce paralytique. Il s'approche de nous, nous qui avons été meurtris de toutes sortes de manières par le péché. Et il ne nous casse pas. Il nous répare pour nous faire entrer dans la gloire. C'est ce que Paul veut dire quand il écrit, c'est lorsque nous étions sans force que Dieu a manifesté son amour lorsque Christ est mort pour nous. C'est pour ça que le message de l'Évangile aux personnes qui sont meurtries, qui sont cassées, qui sont fatiguées, c'est pas « mes amis, il faut apprendre à s'aimer soi-même ». Ça, ce n'est pas l'Évangile. En fait, cette parole fait plutôt obstacle à l'Évangile, parce qu'elle m'envoie vers une pharmacie qui n'a pas le remède pour me guérir. L'Évangile a le remède. Ce n'est pas regarder à soi-même et se dire « je dois m'apprendre à m'aimer et les choses iront mieux ». Non. L'apôtre nous dit que nous sommes faibles, que nous sommes sans force. que nous sommes morts dans nos péchés. Et le Seigneur Jésus vient. Le Seigneur Jésus-Christ vient auprès de nous. Il ne vient pas vers cet homme paralytique pour lui dire « Je suis désolé de voir ta situation, mais laisse-moi t'aider à t'aimer toi-même. » Non, il lui dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et c'est encore plus clair pour nous qui vivons après la croix. Nous voyons ce que Dieu, ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Il est mort sur la croix pour nous apporter le pardon de nos péchés. Il est allé à la croix par amour pour nous. Rappelez-vous ce qu'on a dit au début. Ce n'est pas mon expérience qui sert de mesure pour l'amour de Dieu. C'est ce que Dieu a fait pour moi en Jésus-Christ. Voilà la mesure de l'amour de Dieu. Comme le dit un cantique, amour divin, le roi des rois, pour moi, se donne sur la croix. Les objets de cet amour, des pécheurs sans force. Deuxième point, le moment choisi pour la venue de Christ, au temps marqué. Parfois on utilise l'expression « juste à temps » ou « pile au bon moment ». Et c'est ce que Paul veut dire ici. C'est au bon moment que Dieu a envoyé le Seigneur Jésus-Christ pour mourir sur la croix. Bien entendu, on peut le voir sur le plan historique. La civilisation romaine était en place avec toutes ses routes et cela va permettre à l'Évangile de voyager, de se répandre aux quatre coins du monde. C'est le bon moment dans l'économie de Dieu, quand Dieu avait tout mis en place pour que le Seigneur Jésus-Christ vienne, qu'il accomplisse le salut de son peuple. Mais Paul veut dire plus. Il veut aussi parler du bon moment, du temps marqué pour nous. Quand nous étions sans force, Christ est venu et il est mort au bon moment, au temps marqué. C'est intéressant de noter que le bon moment où Dieu a envoyé son Fils dans le monde, c'était le moment où le monde n'était pas prêt. Le Fils est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Et pour nous, lorsque le Seigneur Jésus-Christ s'est fait connaître, c'est quand nous étions pas prêts. Quand nous n'étions pas forts. Quand nous étions des impies. C'était le bon moment. Si Dieu avait dit, je vais leur envoyer mon Fils quand tout le monde aura obéi à ma parole pendant 18 mois, Jésus ne serait jamais venu. Et si vous trouvez que 18 mois, c'est trop long, remplacez-le par une minute. Jésus ne serait toujours pas venu. Paul nous parle d'ici des objets de l'amour de Dieu lorsque nous étions sans force. Et encore une fois, il faut souligner cette réalité. Ce n'est pas quand je suis rempli d'un sentiment de l'amour de Dieu pour moi que Dieu m'a aimé. Ça, ce n'est pas la mesure de l'amour de Dieu. Non, la mesure de son amour, c'est ce qu'il a fait pour moi quand je ne le connaissais pas. Quand je n'avais pas de force pour venir à lui. Au temps marqué, Christ est venu. Et la troisième chose, la mesure de cet amour de Dieu. Vous noterez que Paul ne dit pas seulement que c'est une question d'être sans force, mais à la fin du verset, il parle des impies. Christ est mort pour des impies. Et dans la version originale, dans la version grecque, il y a quelque chose d'intéressant que Paul fait ici dans les versets 6 à 8. Il va donner une série de déclarations et chaque déclaration se termine avec exactement le même verbe. Et quand Paul fait cela, il veut souligner quelque chose. Il n'avait pas de surligneur, il n'avait pas les caractères en italique comme nous on peut avoir. Il n'avait que les mots. Et donc il va tourner ses phrases pour les terminer avec le même verbe. Verset 6, si je traduis, Si j'arrange la phrase comme c'est dans l'original, c'est car Christ, alors que nous étions encore sans force, au temps marqué pour les impies, il mourut. Verset 7, à peine pour un juste, quelqu'un mourait. Un peu plus loin, quelqu'un peut-être pour un homme de bien mourait. Verset 8, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ pour nous est mort. Termine toujours avec ce verbe « mourir ». Il souligne la mort du Seigneur Jésus-Christ. Vous voulez voir la mesure de l'amour de Christ ? Oui, les évangiles parlent de la vie de Christ, ils parlent de son ministère, ils parlent de sa vie, mais ils se focalisent sur la dernière semaine de la vie du Seigneur Jésus-Christ et en particulier sur sa mort. C'est pour ça que les évangiles ne sont pas des biographies classiques. Non, ce sont des christologies. Ils nous disent quelque chose au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Ils nous disent en réalité que Jésus est venu dans le monde pour vivre afin de mourir, pour sauver des impies. Et c'est la première mention de l'amour de Dieu dans la lettre aux Romains. Et il nous dit que l'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui a envoyé le Seigneur Jésus-Christ dans le monde pour sauver des impies. Où est-ce qu'on avait déjà vu ce terme impie ? Chapitre 1. Chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Tous les hommes sont des impies, sont sous la colère de Dieu, sont sous le jugement de Dieu. Ils peuvent déjà, dans ce monde, connaître les manifestations de cette colère. Et quand on lit Romains 1, la fin du chapitre, on voit ces manifestations qui sont décrites avec ce refrain. C'est pourquoi Dieu les a livrés. Et on voit que cela décrit la société d'aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé pour le futur. Ce sont des signes que nous vivons sous la colère de Dieu. Mais depuis la chute d'Adam, et à part le Seigneur Jésus-Christ, Dieu a manifesté son amour uniquement à ceux qui sont sous sa colère. Aux impies, ce que nous sommes tous par nature. Ceux que Dieu a aimés sont des impies qui ne méritent que sa colère. Mais Jésus-Christ est venu pour eux. Jésus-Christ est venu pour des impies, pour mourir pour eux. Le cantique que j'ai cité tout à l'heure, c'est « Dans ton amour, divin sauveur », numéro 127. La deuxième strophe dit ceci. « En vain, mon cœur, de ton amour voudrait sonder le grand mystère, savoir pourquoi tu fus un jour frappé pour moi sur le calvaire. Sublime amour, don merveilleux, plus grand que l'infini des cieux. Quand nous étions sans force, quand nous étions des impies, Christ est mort pour nous. » Vous vous rappelez sans doute d'un homme qui était exactement cela. Il était au plus près du Seigneur Jésus-Christ lors de sa crucifixion. Il était là, cloué sur la croix, pour la simple raison que de toute évidence, il était impie. Il était sans force, incapable de se sauver. Mais il s'est tourné vers le Seigneur Jésus-Christ et lui a dit, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et le Seigneur lui a répondu, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » En d'autres mots, il lui a dit, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Ce brigand s'est réjoui de connaître la mesure de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Tous nos péchés sont pardonnés. Christ n'a pas pardonné une partie pour nous laisser à nous le reste. Non, il a pardonné tous nos péchés. C'est pour ça que l'Évangile est une bonne nouvelle. C'est de la bonne nouvelle pour ce monde perdu. C'est la bonne nouvelle qui transforme des vies. La bonne nouvelle de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que nous avons vu que par nature nous sommes sans force? Est-ce que nous avons rencontré le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que nous avons entendu ces paroles du Seigneur Jésus-Christ nous dire, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés? Parce que le pardon est en lui et en lui seul. Et c'est un pardon qui est total. Il n'y a absolument rien à rajouter. Et si nous avons entendu ces paroles, qu'est-ce que l'on fait? On fait comme le paralytique. On sort et on va vivre pour la gloire de Dieu, avec sa grâce et sa force. Que Dieu nous bénisse à nos cœurs sa parole ce matin. Amen.